Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, l'après-vie.
Qui se situe dans l'évangile de Luc, une parole qui, comme c'est vrai toutes les autres, comme à chaque fois, eh bien, porte à la réflexion. Et Jésus nous ouvre eh bien là une pensée tout à fait particulière, puisque ce récit ne se trouve uniquement que dans l'évangile de Luc. Et heureusement qu'on a finalement ce passage, parce qu'il nous laisse en effet eh bien là, pas mal de choses sur lesquelles nous pouvons eh bien, nous préparer. Alors, nous avons donc Luc chapitre 16, et nous allons pouvoir lire ce passage simplement. Luc chapitre 16. Voilà ce que j'ai devant les yeux. Il y avait un homme riche, un homme qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur attreste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même. » si quelqu'un des morts ressuscite. » Voilà. Eh bien, nous allons entreprendre cette méditation tout simplement, et je crois qu'il s'agit d'un tableau, en quelque sorte, comparatif, on peut dire cela comme ça, entre deux hommes. L'un est renommé pour sa richesse, l'autre est reconnu pour son extrême pauvreté. C'est ainsi que Jésus est fait intervenir sur la scène de cette parabole eh bien, ces deux personnages. Dans le verset 19, ça commence de cette manière, et je le relis tout simplement. Il nous est dit qu'il y avait un homme riche, et avec toutes les caractéristiques de sa richesse, il était vêtu de pourpre et de fin lin, et chaque jour, il menait une joyeuse et brillante vie, ce qui lui était rendu possible en raison de sa position, en raison de, tout simplement, eh bien, les possibilités qui étaient les siennes de par sa richesse. Il nous est simplement souligné la magnificence de son bien-être, son confort, et à travers également, probablement, entendez par là, joyeuse et brillante vie, c'est que il avait beaucoup d'amis, et lui, il ne craignez pas ce que le second, dont nous allons parler d'ici quelques instants, était le souci quotidien. Lui, il ne craignait pas de manquer de quelque chose ou de connaître, eh bien, tout simplement, la fin. Alors, voilà les choses qui nous sont présentées de cette manière. Voilà comment cet homme, eh bien, Jésus, le dépeint. Et puis voilà qu'un peu plus loin, puisqu'il s'agit d'une étude comparative, il nous est parlé d'un pauvre qui, lui, porte un nom. On ne sait pas le nom du riche. En principe, les riches, on les connaît. Ils portent des noms. Et quelquefois, des noms avec particules. Ça, c'est encore un ancien régime. Mais toujours est-il que ce sont des gens qui se donnent les moyens d'être connus. Et figurez-vous que dans la Bible, c'est le contraire qui se passe. Le riche, on ne le nomme pas. Et par contre, le pauvre, eh bien, il s'appelle Lazare. Et nous voyons que sa position était... Oh, ils étaient voisins, en quelque sorte. Ils habitaient l'un à côté de l'autre, mais pas dans le même bien-être et pas dans le même confort, puisque ce pauvre était couché à la porte du riche et il était couvert d'ulcères. Donc c'était un homme qui était frappé par la maladie, ce que l'autre, le premier, eh bien, ne connaissait pas non plus, puisqu'il avait probablement les moyens de s'entretenir, de se donner les soins pour conserver sa santé. Et cet homme, ce pauvre, dans sa situation de maladie, nous est simplement rapporté qu'il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. La seule espérance qu'il pouvait avoir, c'était au moment où on sortait les poubelles, après un festin ou après un repas, en se disant, eh bien, peut-être que je vais avoir ma part. C'est terrible, hein ? Alors peut-être que ça peut être, c'est choquant de lire ça, mais n'allons pas nous imaginer que c'est un temps révolu. Puisque aujourd'hui, on nous dit très très fréquemment qu'il y a des gens qui sont réduits à une extrême pauvreté. On pourrait dire dans un pays comme le nôtre, où il y a quand même des richesses, où il y a quand même une certaine profusion de produits et autres. Eh bien, ce n'est pas rare de voir des gens quelquefois. Hein, et ce n'est pas une manie, ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est tout simplement parce que probablement il y a des gens qui ont faim. Et c'est ce qui nous est rapporté dans cette parabole. Il nous a dit que son désir, c'est d'avoir quelques petits résidus, quelques petits restes qui tombaient de la table de ce riche. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Lui était dans le confort et l'autre était complètement dans l'indigence, dans la misère, dans la pauvreté. Et la seule consolation que ce pauvre, que cet homme nommé Lazare, pouvait avoir, c'est qu'il ne partageait pas la compagnie des hommes, mais il partageait la compagnie des chiens. Vous avez remarqué avec moi, les choses sont poussées hein, dans ce que Jésus nous présente comme image. Il nous a dit, mais même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Rien de nouveau, hein. C'est ce que nous voyons encore. Les gens qui sont dans l'infortune, ou qui sont délaissés pour compte, hein, quelquefois préfèrent encore la compagnie des animaux, que la compagnie des hommes qui les ont rejetés ou qui leur ont fait du mal ou je ne sais quoi. Il y a tellement de raisons et d'explications derrière parfois la chute ou la dégringolade d'un homme ou d'une femme. Et tout cela, eh bien, ça s'appelle la souffrance, la misère. Alors, nous voyons que, en quelque sorte, les choses sont donc devant nous pour que nous puissions prendre toute la mesure et le contraste saisissant qu'il y a entre ces deux états, ces deux situations. Alors, le voile se lève à un moment donné sur la fin de la vie de l'un et de l'autre. Voilà, leur part dans la vie, l'un dans l'abondance et dans la richesse, dans le contentement et la parfaite satisfaction, parce qu'il n'a pas à se soucier, et puis l'autre, eh bien, dans ce que nous pourrions appeler un état profondément nécessiteux. Alors, le verset suivant nous dit tout simplement que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voilà. Ça, c'est le chemin par lequel tous les hommes passent, c'est la mort. Il est mort. Peut-être qu'aujourd'hui, si nous avions fait une autopsie, on aurait dit, mais il est mort prématurément. Il est mort parce qu'il n'a pas eu les soins. Il est mort parce qu'il n'avait pas suffisamment de quoi manger. Il est mort parce qu'on l'a délaissé. Il était mort peut-être déjà à l'intérieur psychologiquement et moralement. Ça reste à prouver en ce qui concerne Lazare. Mais, selon toute vraisemblance, apparemment, dans son corps, eh bien, il ne pouvait pas certainement avoir une longue vie parce que ses conditions précisément d'existence n'étaient pas probablement favorables. Et voilà que Jésus nous dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors on parle un langage qui s'adresse aux Juifs, qui s'adresse à tous ceux qui étaient familiarisés avec les hébraïsmes, la manière finalement de s'exprimer propre aux Juifs du temps de Jésus, certainement encore aujourd'hui, c'est-à-dire avec des images. Porter dans le sein d'Abraham, ça veut dire tout simplement, eh bien, emmener dans le ciel, hein, en référence à Abraham qui était en quelque sorte ce père de la nation et qui s'était caractérisé par une foi puissante, une foi vivante en Dieu. Et voilà, les choses sont dites simplement, il est mort, et il semblerait que, comme s'il y avait eu là des témoins pour le constater, eh bien, lui, il est monté. Il est monté dans le ciel, il est monté dans le paradis. Je voudrais faire une précision, donner une précision en ce qui concerne le nom de Lazare. Le nom a été donné, il est cité, parce que c'est textuellement Lazare pour nous, Éléazar, et ce nom signifie Dieu est mon aide. Dieu est mon aide. Vous savez, on porte des noms, nous, qui n'ont pas beaucoup de signification. Mais en ce qui concerne les noms juifs, il y a toujours un sens. Et je crois que quand il a reçu à sa naissance, finalement, ce nom, c'était un nom prédestiné pour lui. Sa part, elle serait la misère dans ce monde, serait la souffrance, serait probablement le rejet des hommes. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il portait, à travers le nom qui était le sien, eh bien, la foi et l'espérance. Dieu est mon aide. Alors il y a peut-être des gens qui portent des noms qui ont un sens, mais faut-il encore le vivre? Lui, il portait le nom, mais il le vivait. Et ça, c'était son espérance, puisque nous avons vu que la conclusion, c'est que quand il est mort, il est allé au ciel. Et on va essayer d'expliquer un petit peu les choses, parce que c'est pas parce qu'il était pauvre qu'il est allé au ciel. C'est pas parce qu'il était malheureux. C'est parce que tout simplement, il avait la foi dans sa misère. Et il supportait toutes ces vicissitudes, toutes ces difficultés innommables, sans murmurer. Il ne s'est pas révolté. Il vivait les choses, naturellement. Et je crois que le nom qui lui est donné, Éléazar, c'était vraiment le nom qui lui convenait, mais ce nom, il ne portait pas seulement, il le vivait. Alors, c'est quand même à dire et à souligner. Et par la suite, nous voyons que il y a ce contraste, je me permets d'insister, ce contraste flagrant de la nudité de l'un et de l'opulence de l'autre, et nous voyons que le premier est affamé, le second est plus que rassasié. Et on l'a dit, on l'a souligné, cet homme était abandonné de tous, de tous les hommes. Pour aller un peu plus loin, il nous est dit que le pauvre donc est mort, et c'était la fin pour lui des privations et des souffrances. La mort est quelque chose qui est une hantise pour les hommes, on l'a appelé à juste titre tout simplement la reine des épouvantes. Mais pour certains, pour les croyants, pour celui qui a véritablement une espérance au fond de son cœur, la mort n'est pas vue de la même manière que peut-être beaucoup et des millions d'hommes qui appréhendent, qui ont cette peur effroyable de devoir quitter cette terre, de devoir partir. Or, pour Lazare, c'était certainement un terme à ses souffrances et à ses misères. Il nous arrive d'entendre cela auprès de personnes, d'amis. Je l'ai encore entendu de la bouche de quelqu'un cette semaine, quelqu'un qui est croyant et qui aspire véritablement à mettre un terme à une vie où elle ne peut plus vivre, parce que les choses sont trop difficiles. Et c'est vrai qu'au fond du cœur de celui qui a la foi, eh bien la mort n'est pas quelque chose de redoutable, mais c'est une libération. Vous savez, il y a au moment où je vous parle des gens qui sont en train de... qui sont torturés sur un lit d'hôpital avec des maladies incurables, avec des souffrances qu'on ne peut pas expliquer, et qui disent, mais heureusement que les hommes viennent pour aider de temps en temps, pour soulager. Vous savez, les soins palliatifs, ils ont leur raison d'être. Hein, parce que mourir, c'est une chose, mais mourir dans la souffrance, c'est épouvantable. Parce que le but sera toujours la même chose, hein, naturellement. Alors, je crois que tout cela, eh bien, nous montre que pour Lazare, il y avait une autre destination. Et la direction de Lazare, c'est la félicité, on peut le nommer comme cela. Et puis voilà que dans le texte, il nous est dit que le premier, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et c'est quand même intéressant de voir ce que Jésus veut nous dire. Le riche meurt, sa destination, c'est la terre. Le premier, le pauvre, c'est le ciel, lui, c'est la terre, enseveli. C'est bien ce que ça veut dire, on ne peut pas donner d'autres explications plus simples. Et nous voyons que Lazare est accompagné par les anges, c'est le monde de l'invisible. Nous, on reste sur la terre, tant qu'on est vivant, naturellement, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais vous avez remarqué qu'il y a quelques textes dans la Bible qui lèvent discrètement le coin du voile pour nous montrer qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a bien des gens, avec leur philosophie, disent, eh bien, tout simplement, une fois qu'on est mort, c'est terminé, on n'en parle plus, c'est fini. C'est tout simplement, eh bien là, on s'évanouit comme dans le non-être, l'anéantissement, mais ce n'est pas ça du tout. Là, ce texte est un texte essentiel pour nous montrer qu'il y a quelque chose d'autre et que les choses ne sont pas finies. Donc, il y en a un qui est élevé, l'autre qui va certainement avoir un cortège funèbre de première classe, parce qu'il est riche, parce qu'il est connu, parce qu'il est une notoriété. On appelle ça une grande pompe. Il va y avoir certainement un monsieur de je ne sais quelle religion va faire une oraison funèbre, parce qu'il était riche et il a quand même peut-être penser qu'il pouvait faire du bien à ses amis, alors on lui dédiera peut-être eh bien, une rue avec son nom, bienfaiteur de l'humanité, je ne sais pas. Hein. Voilà, je parle à la manière des hommes, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ça ne se passe pas autrement. Hein. Vous avez remarqué que toutes nos rues ne sont pas appelées avec des noms de fleurs. Hein. Il y a la rue de M. Untel, la rue de ceci et cela, pour garder la mémoire, et puis bon, au bout d'un certain temps, on ne sait plus qui c'est, hein, naturellement. Mais bon, peu importe, ça c'est la manière et je ne juge pas tout cela. Mais dans le cas de ce riche qui meurt, il n'est pas parlé du ciel. Le ciel est absent dans cette situation présentée par Jésus. Alors, il se passe une chose qui est assez intéressante à prendre en compte, c'est que dans le séjour des morts, il leva les yeux, en parlant du riche, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare auprès d'Abraham. Comme quoi la vision est peut-être différente de l'autre côté. Nous, nous sommes devant un mur, hein, parce que nous sommes des terriens et nous sommes attachés au visible et nous ne comprenons que ce que nous voyons. Mais de l'autre côté, il y a certainement une autre dimension que je ne saurais vous expliquer, mais qui a sa raison d'être et que Jésus nous laisse tout simplement eh bien, à penser. Et si je voulais simplement dire encore une chose dans cette situation, c'est que pourquoi l'un est en haut, l'autre est en bas? Ça nous amène à nous poser une question qui, quelquefois, eh bien, provoque de la récolte ou de l'incompréhension. Moi, je voudrais vous dire que la richesse en soi n'est pas un péché. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est perdu. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est sauvé. Parce qu'il y a des riches qui sont sauvés et il y a des pauvres qui sont perdus. Alors, je dis cela parce que c'est intéressant, puisque nous sommes dans une réflexion de profondeur. Le problème de ce riche, ce qui l'a perdu, c'est son égoïsme. Son égoïsme et son idolâtrie par le faux Dieu qui était au fond de son cœur et qui remplissait sa vie entièrement, c'était l'argent. Et c'est peut-être le problème de ceux qui ont quelque avoir, de ceux qui ont quelques possessions, parce que c'est vrai que quand on n'a pas un sou en poche ou quand on n'a pas de moyens, personne ne remarquera qui vous êtes et ce que vous faites. Mais par contre, si vous avez quelque peu une étoffe, hein, alors à ce moment-là, on pourra peut-être s'intéresser à vous. Et vous aurez des possibilités qu'on s'intéresse à vous. Et vous pourrez peut-être mettre des choses en œuvre. Alors, ce n'est pas une question de valeur. Et ça, je crois qu'il faut bien le dire dans l'explication, parce que je m'emploie à expliquer les choses quand je prêche. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous frappent, et on se dit, mais ça semble injuste tout ça. Et pourquoi ceci et pourquoi cela? Mais le problème de ce riche était son argent. Et c'était surtout non pas l'argent par lui-même, mais la place et la position qu'il avait donnée à sa richesse. Et ce qu'il en faisait. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'argent. Je le répète, Lazare est accueilli dans le ciel par Abraham. Et vous savez que Abraham, si Jésus donne et cite ce nom dans le sein d'Abraham, c'est que, vous le savez, si vous êtes des biblistes, que Abraham est présenté dans l'Ancien Testament comme le riche des riches. Vous connaissez, hein ? Genèse, chapitre 13, vous relirez le texte et vous verrez qu'il était le riche des riches. Mais il était riche en argent. Il était riche en possession de la terre, possession terrestre. Mais il était riche d'autre chose. Il était riche d'une foi puissante, d'une foi vivante, qui le caractérisait par une obéissance, d'une fidélité et d'un amour pour Dieu. Et comme quoi, on peut être riche et puis être ami de Dieu. On le voit dans le cas d'Abraham. Allons encore un peu plus loin. Je reviens sur cette parole. Ils se trouvent tous les deux dans l'au-delà. On va l'appeler comme ça. L'au-delà a deux dimensions. Cet homme riche lève les yeux et il nous est bien précisé que là où il se trouve, c'est le contraire de où il se trouvait sur la terre. Il vivait dans l'opulence, il vivait dans la facilité, il vivait dans voilà, tout ce que l'on peut imaginer qui rend la vie confortable, qui rend la vie aimable. Mais là, il se trouve dans un état contraire, il nous est parlé de tourment. La Bible nous parle de tourment. Elle nous parle de tourment pour ceux qui n'ont pas pris en compte l'appel qui nous est adressé à chacun et à chacune, l'appel du Créateur, de notre Créateur. Dieu nous a créés pour que nous soyons sauvés. Il nous a créés pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il nous a créés essentiellement pour que nous partagions son éternité, sa gloire et son bonheur, ce qu'on appelle, et je l'ai cité tout à l'heure, la félicité. Maintenant, entre ce que Dieu a prévu pour nous et ce que nous, nous voulons, et ce que nous désirons, ce que nous entendons faire de la liberté qu'il nous a donnée, parce que nous ne sommes pas des robots, c'est ce qui fait justement eh bien, la destination de cet homme, parce qu'il était juif, vraisemblablement. Il avait probablement entendu parler de Dieu. Il allait probablement, peut-être plusieurs fois par semaine, à la synagogue ou au temple. Mais ce n'était pas pour ça qu'il était sauvé. C'est que le salut repose sur une autre, un autre fondement, sur d'autres principes. Alors il se trouve là, tourmenté. Et il aperçoit, pour nous montrer qu'il y a quand même une conscience, qu'il y a quand même quelque chose qui caractérisera l'au-delà, même l'au-delà infernal. Et il a vu Abraham, Lazare, dans son sein. Il connaissait bien Lazare, pour être passé si souvent devant lui, peut-être en le chassant ou en le faisant chasser, parce qu'il faisait quand même tâche hein, à la porte de ce riche, Lazare, le pauvre Lazare, avec ses chiens. Alors, là, il le connaissait bien, et il le reconnaît de l'autre côté. Les choses sont présentés. Et il va crier, il va s'écrier, « Mais Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ça étaye un petit peu la pensée de l'enfer. Bon, je ne veux pas trop m'étendre, parce qu'il y a des choses beaucoup plus positives à dire, même quand on prêche l'évangile. Moi, je ne prêche pas l'enfer, je prêche le ciel. Je prêche le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. On n'a pas à faire peur aux gens. Hein. Donc, il va prier. Il n'avait peut-être pas prié auparavant. Il ne savait peut-être pas prier, mais là, il va prier parce qu'il souffre. Marquez, vous savez, quelquefois, la souffrance nous amène à prier. Hein, à crier et à prier. Et il va dire, « Mais Père Abraham, eh bien, aie compassion de moi et tu m'envoies Lazare, comme si Lazare était son larbin, excusez-moi. » Parce que quand il l'a connu sur la terre, c'était un pauvre homme qui n'était bon que à servir les autres. Et il se prend encore pour un maître de l'autre côté. Donc il n'a rien compris. Puisque la situation a complètement été renversée, elle a été complètement changée. Envoie-moi Lazare. Et il va tremper le bout de son doigt et il va me rafraîchir parce que moi je suis malheureux. Mais est-ce qu'il avait pensé une minute que lui, quand il était dans sa somptueuse demeure, en menant une vie comme cela nous est présenté, est-ce qu'il avait souffert, est-ce qu'il avait pensé un instant que ce pauvre homme, qui était de la même patte que lui, qui avait eh bien là les mêmes caractéristiques de l'homme sur cette terre, qui était fait tout simplement d'argile, que lui, ce Lazare à sa porte était aussi en train de souffrance, mais il n'a jamais eu un mot pour s'y intéresser ou faire quoi que ce soit en sa faveur. Nous sommes là vraiment dans une vision d'outre-tombe, hein. On peut le dire, même si les mots sont un peu forts. Alors il va faire monter des tourments, des supplications. Il y a comme un réveil tragique quand il se trouve dans cette situation de l'au-delà et il va dire « Mais souviens-toi !» Oui, souviens-toi. Vous savez, je pense que il est bon de réfléchir. Et ce texte est là tout à fait pour nous amener à prendre toute la mesure de ce qu'est notre vie et la position qui doit être la nôtre. Alors Abraham a répondu, mais mon enfant, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de compassion, il n'y a pas de jugement, et en quelque sorte, je dirais, de parole qui appuie encore la condamnation. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, il est consolé, mais toi, tu souffres. Ah, c'est impossible cette histoire. Impossible. Je voudrais appuyer sur ce terme quand il est dit ceci. Souviens-toi. Vous savez que dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre de la Bible, les premiers versets du chapitre 12, vous connaissez le texte, souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais n'arrivent. Et le fait même d'être là ce soir à partager cette réunion, cette méditation, le fait même d'ouvrir la Bible sur ce texte et de pouvoir l'entendre, c'est une interpellation pour les uns et pour les autres où Dieu nous dit, où Dieu nous rappelle, mais souviens-toi, souviens-toi, que fais-tu du capital vie que je t'ai donné? Est-ce que ce capital, tu le dilapides? Tu en fais comme bon te semble? Mais sache que, à un moment ou à un autre, il faudra en rendre le fruit. Il sera bon ou il sera mauvais. Et toute la différence, ce n'est pas Dieu qui fait les choses, ce n'est pas Dieu qui condamne, ce n'est pas Dieu qui juge, ce n'est pas Dieu qui envoie là les hommes où ils ne devraient pas aller. C'est notre choix personnel. C'est tout simplement notre choix personnel. Quand il est dit, quand Jésus nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, mais le problème, c'est que tous les hommes sont appelés à répondre à l'appel de Dieu. Mais c'est que nous ne nous présentons pas à l'élection. Et il va y avoir des élections. Si quelqu'un peut être pressenti pour être, je ne sais quel, avoir quelle place d'autorité, et puis gouverner d'une manière ou d'une autre, mais s'il ne se présente pas, il ne sera jamais élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et on s'aperçoit que cet homme était appelé comme Lazare, ce riche. Mais pour lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Dans sa situation là, sur Terre, ça ne l'intéressait pas. Alors, en quelque sorte, Abraham va lui dire, mais souviens-toi. Souviens-toi que pendant ta vie, tu t'es donné finalement les moyens de vivre comme tu l'as voulu. Alors lui, il était dans la tristesse, maintenant il est consolé. Toi, tu étais dans ton euphorie de possession et ta vie d'indifférence. Et maintenant, eh bien, tu souffres. C'est la constatation. Et puis Abraham va dire aussi à cet homme, mais cette chose dont nous avons besoin aussi de prendre conscience, il dira, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne le puissent le faire. Eh oui, pour nous dire quoi? Pour nous dire que les problèmes de l'éternité se règlent ici-bas, mais une fois qu'on est de l'autre côté, c'est fini. Il n'y a pas de... C'est une cloison étanche. Le choix qui nous est donné, nous les hommes, c'est ici-bas. Ce ne sera pas de l'autre côté. Peut-être que les gens se disent, moi quand j'arriverai de mon Seigneur, eh bien je m'arrangerai avec lui. Ça, reste à voir. Hein. Et quand on lit ce texte, on s'aperçoit, les choses sont claires pour nous dire que c'est maintenant. Vous savez, notre vie, qu'elle soit longue ou courte, mais cette période que Dieu nous donne entre la naissance et puis notre départ, mais c'est une école, c'est un test. Je ne dirais pas le mot épreuve, parce que ça serait peut-être pas très approprié, mais c'est une école. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette vie? Nous avons mille et une possibilités. Nous pouvons véritablement nous tourner vers Dieu en disant « Seigneur, mais j'ai besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi. » Ou alors, tout simplement, revendiquer le cri d'indépendance qui a surgi un beau jour dans le jardin d'Éden en disant « Mais nous n'avons pas besoin de Dieu. Est-ce que Dieu existe d'ailleurs ?» Et on voit bien que, une fois que nous sommes passés dans l'autre monde, dans l'au-delà, eh bien les choses sont finies. ne puisse le faire. C'est toute la question. Alors, en allant encore et en prolongeant notre réflexion, le riche dit « Je te prie donc, frère Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Ah, voilà, 5 frères qui sont encore sur la terre. Mais qu'est-ce que va faire Lazare? Il le prend encore pour son serviteur. Et là, il n'a pas encore compris. Hein. Il donne encore des ordres, mais de l'autre côté, il n'y aura pas d'ordre à donner. Mais d'envoyer Lazare pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Oui, dans cet au-delà du trop tard, il s'aperçoit que finalement, eh bien, il y a des membres de sa famille qui vivent la même chose que lui, qui sont dans l'insouciance complète, et il voudrait bien maintenant faire de l'évangélisation. L'évangélisation, elle se fait ici-bas, elle ne se fera pas de l'autre côté. Hein. On est d'accord? Parce que le Seigneur nous demande de parler à nos semblables. Il aurait pu faire venir des légions d'anges pour convertir le monde. Il a pris des hommes et des femmes, comme tout à chacun. Et c'est à nous d'être les ambassadeurs de son royaume. C'est à nous d'être les témoins, finalement, de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Mais ce n'est pas de l'autre côté que les choses se passent. C'est figé pour l'éternité, on n'en parle plus. Et lui, il s'était imaginé, parce que, vous comprenez, quand on tenait une religion, ce n'est pas forcément la foi qui sauve. On s'imagine, on est bourré de toutes sortes de légendes, toutes sortes de théologies, toutes sortes de philosophies religieuses, on s'imagine. C'est notre tête qui s'est imaginé des choses. Et lui, il s'imagine que si Lazare, eh bien, leur prêche l'Évangile, eh bien, ils vont se tourner vers Dieu, ils vont se convertir et ils diront, mais voilà, non, on ne veut pas aller là où se trouve. Hein ? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que nous faisons ? Parce que la question est là. Que faisons-nous de ce que nous savons et de nos choix? Et tout homme répondra par lui-même. Hein. On le voit, ce n'est pas la peine d'envoyer les autres, ce n'est pas la peine. Le verset 30 nous dit, ou le verset 29, hein, « Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Eh oui. Et là encore, nous sommes dans l'au-delà du trop tard. Parce que la réponse qui est donnée dans l'histoire parabolique, l'image, pourrait être très bien être la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est elle qui nous dit la même chose. C'est que, mais sur cette terre, nous avons la possibilité d'entendre la voix de Dieu, l'appel de Dieu, parce que Dieu parle, comme nous le lisons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, par toujours, dans ce contexte de la pensée israélite, eh bien, ils ont Moïse et les prophètes, eh bien, qui les écoutent. Nous, on pourrait dire, mais aujourd'hui, mais les hommes ont la Bible. Les hommes peuvent, à un moment ou à un autre, eh bien, se tourner vers Dieu et puis exprimer leurs besoins, leurs souffrances dans une prière ou tout simplement leur reconnaissance, ce qui serait la moindre des choses, ne serait-ce que d'avoir la vie. Alors ils ont, nous avons nous aussi, dans notre temps, autant de moyens pour connaître Dieu si nous voulons. Et il semblerait qu'il y ait finalement eh bien, une réaction qui soit tout à fait contraire, où les gens ne veulent pas en entendre parler. Ne veulent pas en entendre parler. Alors, il dit non, ce riche. Il dit non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ça, c'est encore des idées. Et des idées qui n'ont pas tout à fait, qui ne tiennent pas tellement, eh bien, comme on dit, la route. Hein. Nous voyons que dans son aberration de raisonnement, ce riche, dans son délire et dans ce qu'il pense, et qui est faux, il va jusqu'à contredire la vérité, et pour cela, même en faisant dire à Dieu qu'il s'est trompé dans le moyen de sauver les hommes. En disant, bien, même Abraham, même les prophètes, ça ne sert à rien. Comme aujourd'hui, on pourrait dire, mais même la Bible, ça ne sert à rien, mais il y a beaucoup de gens qui disent que l'Évangile, ça ne sert à rien, que la Bible, ça ne sert à rien, qu'entendre une prédication, ça ne sert à rien, et que finalement, prier, ça ne sert à rien. Voilà l'argument. Finalement, c'est une accusation contre Dieu, en disant, Seigneur, en disant Seigneur, si les hommes sont perdus, mais c'est de ta faute, parce que tu n'as pas pris le bon moyen. Or, le bon moyen qui nous est donné dans l'Évangile, c'est quoi? C'est de croire que Jésus est mort pour nous et que nous sommes sauvés uniquement par grâce. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. Et si nous croyons ça, nous sommes sauvés et nous reverrons Lazare. Enfin, on verra dans quelles conditions, mais toujours est-il que, bien sûr, il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés et ceux qui sont perdus. Et ce n'est pas une sanction de Dieu, c'est tout simplement une décision personnelle propre à chacun et à chacune. Et là, il est en train d'argumenter en disant, mais Dieu, tu vois, regarde si les hommes sont perdus. Et c'est parce que tu n'as pas trouvé le bon moyen, il fallait certainement faire autrement. Quelle aberration de vouloir se faire son propre salut en dehors de la volonté de Dieu qui nous a été révélée. C'est ça la question qui nous est posée. C'est ça. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts revenait. Imaginez-vous. Imaginez-vous que votre grand-père ou votre grand-mère, les gens que vous avez connus, reviennent, ressuscitent en disant, attention, de l'autre côté, c'est l'enfer. Déjà, de voir quelqu'un ressuscité, je peux vous dire que ça créerait pas la foi, ça créerait la frayeur. Ça créerait la panique. Ça créerait une confusion de sentiments et une confusion de conscience épouvantable. Ça serait vraiment l'enfer, à ce moment-là. Ça serait pas le ciel. Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais mon pauvre, tu te trompes. Parce que si même les prophètes, Élie, David, Daniel et les uns et les autres venaient, mais tu crois que les hommes se laisseraient convaincre finalement, pour se repentir? Parce que la repentance, ce n'est pas un acte qui naît de la peur. La repentance, c'est un acte qui est suscité par la foi dans ce que Dieu nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est tout simplement nous faire la proposition de sa grâce et de son amour. C'est exactement le contraire. Alors peut-être les uns diront, les autres diront autrement, mais l'apôtre Paul nous dit bien que les hommes sont sans excuse. Et c'est là où il faut marquer le fait. Parce qu'on trouve tellement d'arguments, tellement d'échappatoires, d'une façon ou d'une autre, pour dire « Oh oui, mais ça ne m'intéresse pas. » Écoutez, l'apôtre Paul écrira quelques mots dans une de ses lettres qu'il adressera aux chrétiens de Rome, qu'on appelle la lettre aux Romains. Il dira que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous les hommes, dans la grandeur de la nature, dans la splendeur de ses créations. Ça, c'est le grand livre qui est autour de nous, il est visible, il est palpable. Et puis il y a également la révélation de Dieu à travers l'Écriture sainte. Nous avons suffisamment à travers ces milliers et ces milliers de pages, ou ces centaines de pages, et de livres que nous avons, ces dizaines de livres que nous avons dans la Bible, pour en savoir suffisamment sur les intentions de Dieu de nous sauver. Et il nous est simplement, et je le rappelle, je le relis, il nous est dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes, Dieu le leur ayant fait connaître, parce qu'en effet, Si nous n'avons jamais lu la Bible et que nous ne sommes pas aveugles, eh bien nous pouvons regarder autour de nous et c'est le grand livre qui nous parle de Dieu, de sa puissance et de son amour. Il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, et il est ajouté, ils sont donc inexcusables. Bon, je ne sais pas comment vous réagissez devant un paysage ou devant quelque chose qui est le témoignage du génie divin, mais moi je dis merci Seigneur. Il y en a qui verront autre chose, mais moi je le crois comme ça. Et quand je lis la Bible, comme vous le faites, et que je découvre tout ce qu'il peut y avoir de sagesse, tout ce qu'il peut y avoir de cette intelligence supérieure, quand je vois la manière dont Dieu s'y prend dans son plan de rédemption, de salut pour attirer les hommes, je me dis, mais aucun écrivain, aucun philosophe n'aurait eu cette pensée, ces idées, parce que ce sont des pensées, des idées géniales qui viennent d'un autre monde, qui viennent du ciel. Ça, c'est extraordinaire et c'est formidable. Donc, les hommes sont inexcusables. Alors, ce n'est pas parce qu'un prophète va venir, ce n'est pas parce qu'un prophète va ressusciter pour dire, attention, tu es sur la mauvaise voie. Ça ne servirait complètement et strictement à rien. Essayons de découvrir et de reconnaître Dieu là où il est, tout simplement. Et c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Et la difficulté, c'est parce que notre cœur est fermé. Notre cœur est fermé, notre tête est complètement là, et bien là, entêtée, nous pourrions dire. L'entêtement de dire non, je ne croirai pas parce que je ne veux pas croire. Je voudrais faire, avant de terminer, trois observations, trois implications spirituelles à ce que nous avons dit. Premièrement, c'est mettre pas en contradiction, mais en comparaison, ce que ce texte nous dit, la richesse et la pauvreté. Le riche, dont nous avons parlé, n'est pas condamné parce qu'il est riche et parce qu'il est heureux, mais pour avoir été sans cœur. Voilà. Parce que finalement, tout est dirigé de là. Ayant eu les moyens il n'a pas su faire le bien qu'il aurait pu faire, mais il n'a pas vu les occasions de le faire, même à sa porte. C'est pour cela qu'il a été condamné. Et il s'est auto-condamné. Vous avez compris ? Richesse, pauvreté, ouais. C'est parce que il avait les moyens de le faire, mais il s'est dit « tout pour moi ». Et on appelle ça comment ? De l'égoïsme, tout simplement. L'égoïsme aveugle, mais l'amour rend perspicace et généreux. Première remarque. La deuxième remarque, c'est cette comparaison entre tout simplement le bonheur et la souffrance. Pourquoi l'un a-t-il été heureux, ou plutôt un heureux insouciant, et l'autre un souffreteux permanent ? Excusez-moi l'expression, hein, mais c'est ce que l'on peut deviner. Quelle différence entre les conditions du ciel et de la terre ? Sur la terre, c'était ainsi pour l'un, c'était ainsi pour l'autre. Dans le ciel, c'est exactement l'inverse. Et c'est comme une sorte de renversement que Jésus nous enseigne, un renversement de toute chose et d'état. L'état de notre vie terrestre et l'état de notre vie céleste. Pour nous qui croyons, c'est céleste. Et vous avez bien marqué, vous avez bien remarqué, l'un est emmené au ciel et l'autre a été enseveli. Quand un homme de foi, un chrétien, quitte ce monde, il ne va pas dans la terre, il va au ciel. Son corps, d'accord. Mais ce n'est pas le plus important, son corps. Et puis la troisième chose sur laquelle je termine, c'est l'indifférence du nanti et c'est la foi du démuni. L'un, aucun souci sur la terre. L'autre, il cherche finalement ce qu'il pourrait mettre dans sa bouche pour pouvoir se substanter, tout simplement. Et la moralité de tout cela, et c'est ce qui fait justement la sagesse des prophéties, pas des prophéties, mais des paraboles de Jésus, parce qu'il y a une grande profondeur. Je ne saurais pas certainement les expliquer, mais je crois qu'on déjà on perçoit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces paroles de Jésus. Alors la moralité, on va la garder pour nous, cette moralité. Elle est spirituelle, elle n'est pas seulement humaine. Ce ne sont pas les preuves qui manquent à la foi, pour croire. Pas les preuves, on l'a dit tout à l'heure. Regardons, considérons, lisons la parole. Ce n'est pas les preuves qui manquent à la foi, c'est surtout la foi qui manque au milieu de preuves les plus éclatantes. Et les preuves les plus éclatantes, Dieu les a mis autour de nous. Il suffit tout simplement de faire confiance. Et c'est la foi qui manque à ce moment-là. C'est pas les preuves. Parce que si nous voulons des preuves et que nous fassions une démarche de foi, mais Dieu va nous les donner, tout simplement. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce et que cela puisse nous amener à prendre position pour le Seigneur, de dire « Mais Seigneur, moi maintenant je m'incline devant toi. » Souffrance, bonheur, richesse ou malheur, ou ceci et cela. Ce qui est important, Seigneur, c'est de te connaître et de t'avoir pour mon trésor, de t'avoir pour ma richesse, comme David, et j'aime bien cette parole du roi David quand il écrit ça dans un psaume, « Mais Seigneur, Éternel mon Dieu, tu es mon souverain bien. » Alors quand on a le Seigneur, on a tout le reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par surcroît. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier maintenant quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est pleine d'une sagesse, Seigneur, qui en effet nous heurte, nous frappe, mais elle est faite, Seigneur, avant tout pour nous montrer que, Seigneur, il y a une autre dimension pour chacun et pour chacune. Et ton désir, et tu l'as exprimé encore, et tu nous le montres, Seigneur, bien souvent, ton désir le plus cher, ce n'est pas que les hommes soient perdus, condamnés, jugés, mais c'est qu'ils soient sauvés. Alors ça, nous ne voulons pas nous départir de cette pensée, parce que c'est la pensée essentielle, fondamentale du message de l'Évangile. Jésus-Christ n'est pas venu faire une tentative pour sauver les hommes. Il est venu sauver les hommes, tout simplement. Et les choses sont faites. Les choses sont acquises. Et de la croix du calvaire, dans l'ultime moment, cette parole est tombée, Seigneur. En effet, Père éternel, Seigneur, au pied de la croix, où tu as pu dire, mais tout est accompli. Alors, ce ne sont pas des essais, des tentatives. C'est une réalité. Alors, nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes, quelle que soit notre condition d'homme sur cette terre, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons nantis ou que nous soyons nécessiteux, que nous soyons ceci ou que nous soyons cela, Ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, Seigneur, c'est de te connaître. C'est de t'avoir pour sauveur. De te connaître et de te reconnaître comme notre Créateur. Et de te donner, Seigneur, eh bien, toute notre vie, entièrement, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es venu nous dire cela. Et merci, Seigneur, pour cette parabole qui a un caractère unique. Oui, Seigneur, dans cet évangile de Luc, pour nous montrer, Seigneur, que tu as voulu simplement, à travers eh bien, cette simple image, nous montrer que dans l'au-delà, il y a une conscience. Que dans l'au-delà, Seigneur, il y a une vie, une autre vie, une autre dimension de vie. Alors nous voulons, Seigneur, te demander, Père éternel, que tu inclines nos cœurs vers toi, que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, que tu nous renouvelles, Père éternel, que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre quelle est notre vocation, quel est notre appel, et que nous puissions vraiment réaliser, Seigneur, tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous aimer, Seigneur, pour nous aimer, pour nous sauver, pour nous pardonner et pour nous donner la vie éternelle. Alors merci, Seigneur, pour ces quelques mots partagés ce soir. Et que maintenant, Seigneur, eh bien, nous prenions une décision. Oui, Seigneur, maintenant, je sais où est véritablement mon véritable trésor, ma véritable vie, et je te choisis, Seigneur. Je me mets de ton côté. Je me range, Seigneur, de ton côté. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Amen. Amen. Amen.